Vous écoutez
RMC.
Mardi 19 mai,
l'info sur RMC.
Il est 7h01, Céline Kallmann est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Le Conseil d'État donne 8 jours pour autoriser à nouveau les cérémonies religieuses dans les églises, synagogues et mosquées. L'institution estime que leur interdiction, décidée par précaution, atteint gravement à la liberté de culte. Donald Trump assume prendre l'hydroxychloroquine depuis 10 jours sans pour autant être malade. Ça ne peut pas faire de mal, a lâché hier le président américain. Et puis une immense campagne de tests lancée dans le secteur de l'abattoir près de Saint-Brieuc. 69 cas de Covid-19 ont déjà été détectés. Plusieurs centaines de salariés vont être testés. Bienvenue sur RMC. 8 jours. Le gouvernement a donc 8 jours pour lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte. Une mesure radicale qui avait été mise en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Décision hier soir du Conseil d'État. Soulagement des fidèles frustrés de ne plus pouvoir se réunir et prier depuis plus de 2 mois. Gladys Laffitte et Rémi Inck.
En plein ramadan, les musulmans veulent pouvoir se réunir pour prier dans les mosquées. D'autant plus que la fin du mois de jeûne doit avoir lieu ce week-end. Mamed Enich, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis.
Les fidèles nous contactent. Avant, c'était par téléphone et sur notre page Facebook de la mosquée. Ben, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse prier pendant le ramadan? Au pire, prier l'Aïd, c'est la fin du ramadan. Et vraiment, on va terminer le déconfinement dans la joie et la gaieté.
Du côté des protestants, moins d'empressement. Il faut surtout bien préparer le retour des célébrations dans les temples. François Claveroli, président de la Fédération protestante de France.
Il faut qu'on sache dans quelles conditions redémarrer tranquillement, normalement, avec prudence, avec précaution, de sorte que les gens soient à bonne distance, que les lieux soient désinfectés, peut-être pas une obligation du port du masque, mais au moins un encouragement à la responsabilité personnelle.
Enfin, la conférence des évêques de France estime que l'ordonnance rendue par le Conseil d'État va dans le bon sens et espère maintenant une reprise des messes d'ici la Pentecôte, qui sera célébrée le 31 mai.
Donald Trump menace une fois encore de suspendre le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé. Il donne 30 jours à l'OMS pour qu'elle démontre son indépendance à l'égard de la Chine, ce sont ses mots. Donald Trump qui a annoncé hier pendant son point presse quotidien qu'il prenait de l'hydroxychloroquine tous les jours.
Oui, j'en prends depuis une semaine et demie et je suis toujours là. Ça ne va pas me faire de mal, c'est un médicament utilisé depuis 40 ans pour la malaria ou le lupus.
Un traitement préventif, donc. Pourtant, l'Agence américaine des médicaments a déconseillé l'usage de ce produit en dehors d'un milieu hospitalier ou d'essais cliniques. On retrouve le correspondant d'RMC aux États-Unis, Cédric Fesch.
C'est Donald Trump lui-même qui a voulu prendre de la chloroquine. Il dit qu'il en a parlé au médecin de la Maison Blanche. Il lui a demandé « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le médecin lui aurait répondu « eh bien, si vous en voulez ». Et le président lui aurait répondu « oui, j'en voudrais, beaucoup de personnes en prennent ». Le président dit qu'il a commencé à en prendre il y a une semaine et demie, une pilule par jour, et que jusque-là, ça a l'air ok. Après cette révélation surprise, les journalistes ont demandé à Donald Trump pourquoi il prenait le médicament sans preuve de son efficacité. Et il a répondu « voici ma preuve, j'ai reçu beaucoup d'appels positifs à son propos, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Et aussitôt, des médecins ont mis en garde le public parce qu'il y a un risque de mort. À chaque fois que le président a fait la promotion d'un remède potentiel contre le coronavirus, que ce soit la chloroquine déjà ou du désinfectant à l'intérieur du corps, des Américains se sont intoxiqués et certains en sont morts.
Et un espoir ce matin en provenance des États-Unis. Une société biotechnologique américaine Moderna annonce des résultats très préliminaires mais encourageants pour son vaccin expérimental chez 8 volontaires. Des essais à grande échelle sont prévus en juillet prochain. RMC 7h05, Paris et Berlin ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros face à l'impact économique du Covid-19, crise qui plonge le continent dans une récession d'ampleur historique. Les deux pays ont donc ouvert la voie à une mutualisation des dettes sur le continent. Cyprien Pezrella.
Les États européens n'ont pas réussi à faire front face au coronavirus, constat commun de la chancelière allemande et d'Emmanuel Macron. Alors ils veulent que désormais l'Union puisse agir en matière de santé.
Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser et identifier les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité.
Une nouvelle priorité qui nécessite de revoir les fondements de l'Europe, reconnaît Angela Merkel.
Nous devons parler de tout ce qui nous a fait prendre conscience des insuffisances de l'Union européenne. Cela inclura peut-être des modifications des traités.
De quoi être mieux armé face à la concurrence mondiale en cas de nouvelle épidémie, se réjouit Pascal Joannin de la Fondation pro-européenne Robert Schuman.
La santé va devenir un élément clé de l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est-à-dire que si on veut en effet peser par rapport aux Américains ou par rapport aux Chinois, c'est en effet une réponse commune qui pourrait être faite.
Un cap qui reste à atteindre. Français et Allemands doivent maintenant convaincre les 25 autres États membres de l'Union.
Pourquoi les abattoirs sont-ils des foyers de contagion en puissance en Allemagne, aux États-Unis, mais aussi en France? Une centaine de salariés détectés positifs au Covid-19 le week-end dernier dans le Loiret et en Bretagne. Jean-Baptiste Bourgeon, un dépistage de grande ampleur va d'ailleurs être mené aujourd'hui sur un site des Côtes d'Armor.
Oui, plusieurs centaines de salariés vont être testés aujourd'hui. Un dépistage massif qui pourrait se prolonger demain. L'abattoir proche de Saint-Brieuc compte 3400 salariés répartis sur plusieurs sites dans un rayon de 30 km. À ce stade, près de 70 employés sont déjà positifs au Covid-19. Et puis, dans l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, cette fois autre foyer de contamination, au total, 54 employés sont contaminés au Covid-19. C'est 20 de plus en 24 heures. Là aussi, d'autres séries de tests vont continuer aujourd'hui sur les 400 employés du site et ses sous-traitants.
Après 5 semaines d'arrêt forcé, l'activité reprend aujourd'hui dans les 6 centres de distribution d'Amazon en France. La reprise est progressive avec d'abord les salariés volontaires. UFC Que Choisir a signé en justice 20 compagnies aériennes, dont Air France, Ryanair ou encore Transavia. L'association de consommateurs leur reproche de ne pas laisser le choix aux voyageurs entre le remboursement et le bon d'achat après l'annulation des vols pendant la pandémie. Ils avaient raflé la mise pendant la grève contre la réforme des retraites. Cette fois, les autocaristes sont touchés de plein fouet par la crise. 1 million d'entreprises, environ 80 000 salariés. Les règles de distanciation à appliquer ne sont pas viables. Vincent Meledier, RH d'une société d'autocars, réclame un plan d'aide spécifique aux autocars du tourisme.
On a appris que, par exemple, dans l'aviation, il n'y avait pas de distance sociale entre les voyageurs. Aujourd'hui, dans un autocar, c'est plus de 60 personnes normalement. Aujourd'hui, on peut en mettre que 16, puisqu'il faut respecter 1 mètre. Qui, demain, va prendre un car pour 16 personnes? Techniquement, financièrement, c'est pas possible. Ce mouvement est surtout pour protéger nos salariés. Aujourd'hui, c'est pas le chômage partiel qui va les protéger, c'est le chiffre d'affaires des entreprises qui va les protéger, puisque si derrière, l'entreprise ne peut pas les payer, ils ne seront pas payés. Donc si aujourd'hui on n'a pas d'aide, ça sera à la fin des entreprises, je dirais des petites structures.
Et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé au transport, sera sur RMC et BFM TV à 8h30. L'Italie revit depuis hier une journée très particulière pour les habitants. Les bars, restaurants, magasins ont rouvert. Nos envoyés spéciaux Caroline Philippe, Romain Cluzel ont suivi le retour des clients à Savone, ville de 60 000 habitants, à une centaine de kilomètres de la frontière française.
Isolé sur sa table au milieu de la salle, Samy retrouve son restaurant favori et le menu n'a pas changé.
La pasta alla carbonara.
Des habitudes à reprendre, enfin, après 2 mois de fermeture.
Molto, molto, molto felice.
Je suis vraiment très heureux. C'est un retour à la normale, les lieux de vie rouvrent, comme avant, mais avec prudence.
Les craintes sont encore présentes pour beaucoup de clients, comme Giulio, bientôt retraité.
Le retour complet à la normale est difficile. Mais il y a des règles sanitaires sérieuses et précises. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème.
Ces règles, elles ont été décidées par l'État italien et Sergio, le propriétaire du restaurant, les applique scrupuleusement.
Entre chaque chaise, il y a 1 mètre de distance. Toute personne qui entre doit compléter un formulaire avec son nom, son numéro de téléphone. Les clients ont besoin de se sentir en sécurité. S'ils voient que les tables sont trop proches, ils ne viendront plus manger ici. Ils ont encore peur de sortir.
Pour son restaurant, comme pour le reste de l'Italie, c'est un test avant la réouverture des frontières dans 15 jours et le début de la saison estivale.
Et il trépignait depuis des semaines, ça y est, les sportifs de haut niveau ont eu l'autorisation par décret de reprendre l'entraînement dans leurs infrastructures habituelles. L'INSEP, situé dans le bois de Vincennes, à Paris, a accueilli hier 30 de pensionnaires. On est bien loin des 800 en temps normal. Kevin Morand.
Comment juste à dérouiller un petit peu, à bouger.
Des gestes dans le vide et des sportifs avec un masque pour les judokas de l'équipe de France de retour à l'INSEP. Impossible pour l'instant d'accrocher le kimono d'un partenaire. Axel Clerget prend son mal en patience.
Ah ouais, le contact, ça va manquer à un moment. Les judokas, quand on se dit bonjour, on est tous en train de s'attraper. On a besoin du contact, quoi. C'est notre façon de vivre, quoi.
Avec corde à sauter et halter, les premiers jours sont dédiés à la réathlétisation. Le plus possible en extérieur, le rameur se pratique au soleil. pour Roman Dico.
Bah, j'ai fait attention à ma ligne, donc j'ai pas pris de poids, j'ai même perdu 1 ou 2 kilos, donc je suis contente. On va voir comment mon cœur se sent, parce que je pense que c'est le cardio surtout qui va être difficile à reprendre.
Pour les sports de contact, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, évoque un retour à la normale le mois prochain.
Il y a aujourd'hui en réflexion un protocole sanitaire qui puisse nous montrer qu'il est possible de respecter les gestes barrières tout en s'attrapant par le kimono. La prochaine étape, c'est effectivement le 2 juin.
Avec le report des compétitions internationales, rien ne presse. Teddy Riner ne reviendra d'ailleurs à l'INSEP que la semaine prochaine.
Et puis c'est acté à l'instant, La République En Marche perd la majorité absolue.
Avec la création d'un nouveau groupe. Un nouveau groupe à l'Assemblée nationale composé d'écologistes, d'anciens écologistes, d'anciens membres de La République En Marche. Nous en parlerons demain matin, puisque je vous annonce que demain matin, mon invité sera Mathieu Orphelin, qui est le président de ce nouveau groupe qui sera annoncé officiellement tout à l'heure. Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot, qui est député du Maine-et-Loire. Il est 7h12. Vous êtes sur RMC. 10 000 Français, au moins 10 000 Français, qui ont la double nationalité, des franco-marocains, sont bloqués depuis le mois de mars au Maroc, des Français en vacances, mais aussi des franco-marocains ou des Marocains résidant en France, piégés là-bas depuis que le Maroc a fermé ses frontières. Le Maroc a fermé ses frontières, ils ne peuvent pas partir. Quentin Vinet.
C'est ça, cela remonte au 15 mars dernier, quand le Maroc a suspendu tous ses vols internationaux. Oui. Les Français présents là-bas se sont massés, vous vous souvenez des images, dans les aéroports pour rentrer en France. Un dispositif spécial a été mis en place à l'époque, mais ça n'a duré que quelques jours. Et depuis la fin du mois de mars, seulement 6 vols par semaine sont organisés, avec seulement 120 places à bord des avions pour respecter les règles de distanciation. Ça ne suffit pas évidemment pour rapatrier tout le monde. Environ 30 000 Français ont pu revenir, mais il en reste 10 000 piégés en quelque sorte là-bas. Ils se disent à bout. Certains risquent le licenciement car ils ne peuvent plus aller travailler. D'autres disent avoir des problèmes de santé. En principe, ils sont prioritaires pour monter à bord des rares avions, mais l'ambassade et les consulats sont difficiles à joindre. Les effectifs sont réduits. Ils disent avoir répondu à plus de 60 000 mails et plus de 80 000 appels en 2 mois. La seule perspective maintenant pour des dizaines de Français partis au Maroc, en vacances, en camping-car, c'est le prochain bateau entre le port de Tanger et le port de Sète, ce sera le 26 mai.
Oui, la semaine prochaine, mardi prochain. Il faudra attendre mardi prochain pour prendre le bateau, éventuellement, entre Tanger et Sète. J'en parlerai à mon invité. Je mets ça de côté, Jean-Baptiste Djebari, qui sera là tout à l'heure, 8h35, 9h, le secrétaire d'État au transport. Bien, nous allons prendre Pascal. Allez,
oui.
Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour, vous êtes, Jean-Jacques.
Vous êtes un Nîmois, chef d'entreprise, Pascal. Oui. Alors, je le disais ce matin, déconfinement, est-ce le bon rythme, trop lent, trop rapide? Qu'en pensez-vous, Pascal?
Bah écoutez, effectivement, arrivé à un moment, il faut en sortir. Bon, moi, je suis pas juge pour pouvoir me prononcer.
Oui, mais enfin, vous êtes citoyen.
Je suis citoyen, je travaille, j'ai travaillé depuis le début de la crise, puisque je suis patron de supermarché.
Oui.
Et objectivement, moi je voulais intervenir parce que j'ai été très très choqué et très peiné pour les gens qui sont en anxiété par rapport à un qui n'ose pas sortir de chez eux.
J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup, on y reviendra à 7h40.
C'est très impressionnant, je les plains parce que ça doit être très difficile à vivre. Le message c'était quoi? C'était moi je travaille avec mes collaborateurs depuis 2 mois, puisque je suis patron de supermarché, et en mettant les gestes barrières, le nettoyage des mains, les distanciations et le masque. Objectivement, je touche du bois. Je ne suis pas malade et nous n'avons pas de malade autour de nous. Pourtant, bon, j'ai 800 clients par jour, donc on croise du monde. Mais tout ça pour dire que bon, il faut pas non plus tomber dans une anxiété permanente et dans un stress qui est paralysant, quoi, qui va les empêcher de vivre. Parce que effectivement, par rapport à ce problème d'épidémie, je crois qu'on est parti pour un bout de temps, pour fonctionner avec, il faut qu'on mette des protocoles simples en place. C'est tout. C'était ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je travaille.
Vous avez eu raison de le dire et de le rappeler parce que vous avez été ému et touché par les témoignages que nous avons sur cette anxiété, sur ce syndrome de la cabane de l'escargot, dont on parlera tout à l'heure à 7h40. Merci beaucoup, Pascal.
Voilà, merci
d'être avec nous le matin. C'est la radio, la télé le matin, Pascal?
La radio le matin.
Ouais. Allez, très bien, il est 7h15, 7h16, Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs est là. Bonjour.
Bonjour, monsieur Bourdin.
Vous représentez les autocaristes, 3000 sociétés en France, qui emploient 100 000 salariés. L'activité de tourisme la plus touchée dans votre secteur, c'est combien? 20 000 emplois?
On parle à peu près de 20 000 salariés aujourd'hui qui n'ont aucune prévision de reprise d'activité dans le tourisme, effectivement.
Voilà, parce que les bus, les cars ne roulent pas. Aujourd'hui.
Oui, depuis le début de l'année, les cars de tourisme sont à l'arrêt. En réalité, la crise pour les autocars, elle a commencé avant le début du confinement. Dès le début de l'année, on a vu une baisse très importante du nombre de touristes qui sont venus dans notre pays. L'éducation nationale a aussi, c'est un principe de précaution que l'on comprend, mais a aussi arrêté très tôt toutes les sorties scolaires. Et donc finalement, notre secteur est rentré dans la crise extrêmement tôt. Et aujourd'hui, nous sommes un secteur très inquiet pour son avenir.
Bien, vous avez été déçu par les récentes réunions autour du tourisme et notamment les plans de sauvetage. Pourquoi ? Parce que vous ne bénéficiez pas pour l'instant de toutes les mesures permettant aux entreprises du tourisme de s'en sortir. Alors, je reprends les mesures principales. Report des prêts bancaires. Vous bénéficiez du report des prêts bancaires ou pas ?
Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. En réalité, lorsqu'on a pris connaissance du plan tourisme mercredi dernier. Nous étions plutôt contents des mesures qui ont été présentées par le Premier ministre. Il nous semblait qu'elles correspondaient véritablement à notre attente. Et la déception est arrivée quelques heures après, lorsque nous avons appris que nous ne faisions pas partie de ce plan tourisme. Oui. Alors Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Djebbari ont corrigé le tir vendredi soir en nous permettant de bénéficier d'une mesure du plan tourisme, à savoir l'annulation des charges sociales pour 4 mois, pour la période de mars à juin, mais très clairement, c'est insuffisant.
Oui, c'est insuffisant. Vous demandez le report des prêts bancaires, 6 à 12 mois. Vous demandez le prolongement du chômage partiel des salariés après le mois de juin, évidemment, hein, jusqu'à la reprise totale.
Mais c'est exactement ça. On ne prévoit pas de reprise dans le meilleur des cas avant la fin de cette année, au début de l'année 2021. Il faut que l'État nous accompagne jusqu'au moment de la reprise. On était extrêmement satisfaits, il faut le dire, de l'accompagnement de l'État pendant la période du confinement. Ça a permis aux entreprises de tenir, mais c'est pas le moment de les abandonner. Il faut continuer jusqu'au moment où l'activité va repartir.
Alors, dans les bus scolaires, un siège sur deux est occupé. Est-ce possible dans les bus de tourisme ?
S'il le faut, il faudra le faire, mais vous comprenez que c'est aussi un frein très important à la reprise. Parce que ça a un coût qui est très élevé. Ça a un coût qui est très élevé pour l'organisateur du voyage. Si au lieu de mettre 50 personnes dans un autocar, on ne peut plus en mettre que 25, peut-être qu'il devra payer 2 autocars, là où en temps ordinaire, il en aura pris 1. C'est un autre frein très important à la reprise. Et c'est ce qui, aujourd'hui d'ailleurs, empêche les opérateurs de car Macron de reprendre dans des conditions économiquement viables.
Mais économiques viables, Jean-Sébastien Barrault, les frontières pourraient s'ouvrir, européennes je parle, pourraient s'ouvrir un peu plus vite que prévu. Je vais en parler avec Jean-Baptiste Djebbari, je me ferai le relais tout à l'heure de vos inquiétudes, évidemment. Mais évidemment, les frontières pourraient ouvrir, frontières européennes, un peu plus vite que prévu, ce serait pour vous un peu d'oxygène, parce que n'oublions pas que vous transportez beaucoup de touristes vers, je ne sais pas moi, Versailles, les châteaux de la Loire, dans les aéroports, dans toutes les visites touristiques en France. Hein, premier pays touristique du monde, quand même, je voudrais le rappeler. Hein.
Oui, c'est ça, vous l'avez dit, M. Bourdin, les touristes étrangers utilisent massivement l'autocar dès lors qu'ils arrivent en France.
Oui.
Par exemple, les 3/4 des touristes qui arrivent à Roissy et qui vont visiter Paris prennent un autocar. Les 3/4 prennent un autocar pour se rendre à Paris, pour aller visiter les principaux monuments. Aujourd'hui, cette activité-là, elle est à l'arrêt.
Elle est à l'arrêt. Merci Jean-Sébastien Barrault. Merci, président de la Fédération. Merci à vous. Fédération nationale des transports de voyageurs. Tout à l'heure, Jean-Baptiste Djebbari, 8h35, 9h. Ne ratez pas, parce que j'ai plein de questions sur l'avion, sur les cars, sur les trains, sur tous les moyens de transport. Il sera là pour répondre aux questions. Il est 7h20. À tout de suite, Mathieu.
Autre moyen de locomotion, le vélo, qui lui est le grand gagnant de ce déconfinement. Vente multipliée par 2 et même par 4 dans certaines régions. Du pain quotidien dans un instant sur RMC.
RMC, du pain quotidien.
Avec Victor Joannin. Victor, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début du déconfinement, hein, parce que pendant le confinement, certains ont fait un peu de vélo, quand c'était possible, hein, pour aller travailler par exemple. Eh bien, depuis le début du déconfinement, les ventes de vélos, alors là,
explose.
Alors les professionnels résument la période en un mot, c'est la folie. Le chiffre d'affaires de Decathlon en Ile-de-France a été multiplié par 4 par rapport à la même semaine l'année dernière. Mais c'est le cas partout en France. Dans les 50 boutiques du réseau cyclable, en 15 ans de métier, c'est du jamais vu. Vente multipliée par 2, les clients se bousculent et les fournisseurs n'arrivent plus à suivre. Donc parfois, il faut attendre une semaine ou deux semaines pour récupérer son deux roues.
Pour récupérer son deux roues, c'est votre cas. Allez-y, 3216, rmc.fr. Vous avez sorti un vieux vélo que vous allez faire réparer, que vous êtes allé faire réparer. On va en parler. Et où vous avez acheté un vélo neuf, vous êtes mis au vélo, racontez-nous, 3216. Les réparateurs, justement, voilà, connaissent un succès inédit.
Oui, ça c'est grâce à l'aide de l'État de 50 euros lancée la semaine dernière. Dans la limite d'un vélo par personne, vous pouvez donc vous rendre chez un réparateur agréé. Déjà plus de 15
000. Comment je fais? Je vais chez le réparateur, simplement. Voilà, tout simplement. Je remplis rien du tout.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a tellement de succès qu'il faut souvent faire la queue ou prendre rendez-vous pour...
Et je vais chez le réparateur, il me répare mon vélo, et si ça coûte 50 euros, bah je ne fais rien.
Rien, ça coûte
et
plus,
si ça coûte
le surplus.
Plus, je paie le surplus. Simplement.
Absolument, il faut juste s'inscrire sur une plateforme et c'est lui qui le fera.
Non, c'est vrai, vous faites du vélo. Qui fait du vélo ici, toi, à la table? Victor Joannin fait du vélo, c'est
fait un petit peu.
Charles, non, on ne fait pas de vélo.
Il y a rupture de stock, malheureusement.
Il y a rupture de stock, mais d'accord. Bon, allez, arrêtez. La raison de cet engouement, c'est la fin du confinement.
Bien sûr, il y a d'abord la volonté d'éviter les transports en commun, pas comme du virus. Et puis, les Français sont restés bloqués chez eux pendant deux mois. Ils ont besoin de prendre l'air et ils ont le budget, notamment parce que les grandes vacances à l'autre bout du monde, c'est compromis. Et puis, il y a les aides à l'achat dans beaucoup de villes, à Nantes, Lyon, Grenoble, Paris, Nîmes. Bientôt, c'est 100, voire plusieurs centaines d'euros qui sont offerts pour l'acquisition d'un vélo normal ou d'un vélo électrique.
Bien, ben nous verrons si c'est suivi des faits. Je sais qu'il y a beaucoup... J'ai vu Seb qui se lançait
dans la fabrication
d'un vélo
électrique.
Simoncini, l'ancien de Mythic, le créateur de Mythic, vélo électrique haut de gamme.
Parce que les industriels l'ont bien compris, c'est pas seulement un effet feu de paille, c'est un changement de mode durable.
Bien, eh ben, nous en reparlerons. Allez-y, vous témoignez, 3216rmc.fr, l'actu des réseaux sociaux maintenant.
RMC. Hashtag Mania.
Avec Charlemagne, Donald Trump. Charles a créé la surprise hier soir en annonçant qu'il prenait à titre préventif de l'hydroxychloroquine, un cachet par jour depuis une dizaine de jours. Des déclarations qui ont évidemment fait bondir les internautes.
C'est toujours mieux que de l'eau de Javel. Voilà ce que disent beaucoup d'internautes qui se souviennent des dernières trouvailles médicales de Donald Trump. Il faut croire que son traitement ou désinfectant n'a pas fonctionné, dit l'un d'entre eux. Peut-être qu'il prend son cachet avec un verre d'eau de Javel, s'interroge un autre. Certains prennent d'ailleurs les déclarations de Donald Trump avec des pincettes. Attention, dit un internaute, il dit qu'il en prend, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Peut-être que son médecin lui donne des morceaux de sucre. En revanche, toujours sur Twitter, les supporters du professeur Raoult se félicitent. Ils voient une consécration pour le protocole du professeur marseillais. Certains ironisent et demandent d'ailleurs à Donald Trump d'envoyer des centaines de millions de dollars à l'Olympique de Marseille en guise de récompense. Rappelons qu'aucune étude rigoureuse n'a montré un quelconque effet bénéfique de l'hydroxychloroquine sur les malades du Covid-19. D'ailleurs, aux États-Unis, plusieurs voix se sont élevées cette nuit pour appeler les Américains à ne pas suivre l'exemple de leur président, y compris parmi les journaliste de la chaîne préférée de Donald Trump, Fox News, ce qui a particulièrement énervé le président américain cette nuit sur Twitter.
En France, après une semaine de déconfinement, beaucoup de témoignages à travers le hashtag « Depuis que je suis déconfiné ».
Oui, une semaine plus tard, certains sont soulagés. « Depuis que je suis déconfiné, je suis ravi de ne plus remplir ces satanées attestations », dit un internaute. « Depuis que je suis déconfiné, je ne ressemble plus à Chewbacca », témoigne une internaute qui a visiblement eu le temps de passer chez l'esthéticienne. Certains ironisent, comme cet internaute qui dit « Depuis que je suis déconfiné, je me demande où sont passés tous les joggers improvisés ». Mais surtout, beaucoup d'internautes sont inquiets. « Je m'aperçois que beaucoup confondent déconfinement et fin de l'épidémie », écrit l'un d'entre eux. « Je bosse en magasin », dit un autre, « et j'ai droit chaque jour à un florilège de clients qui n'en ont absolument rien à faire de la santé des autres ». Enfin, le tweet le plus relayé avec ce hashtag est très clair. « Depuis que je suis déconfiné, eh bien je ne suis toujours pas sorti ». Un message relayé, partagé par des milliers d'internautes.
On va en parler d'ailleurs, avant de retrouver Nicolas Poincaré, on va
cette
en parler
peur
après le journal.
Du déconfinement, la peur de sortir, de retourner dehors. Le syndrome de la cabane, le docteur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, spécialiste de l'angoisse, de la dépression, sera avec nous juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Bien, Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Autre interrogation, c'est cette multiplication des cas de contamination dans les abattoirs. Vous allez nous expliquer, on a du mal à expliquer ce phénomène.
Dans les abattoirs du monde entier.
Du monde entier,
encore,
oui, pas qu'en France.
Encore un mystère du coronavirus. Aux États-Unis, par exemple, il y a 5000 salariés d'abattoirs qui sont touchés.
touchés, 13 qui sont déjà morts, 25 000 personnes qui sont au chômage technique parce que les abattoirs ont fermé. Alors pourquoi ? Peut-être à cause du froid et de l'humidité qui règne dans ces abattoirs.
À tout de suite, 7h29. Il est 7h30 juste et nous sommes avec Anne-Sophie Balbière pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Une épine dans le pied d'Emmanuel Macron. Le groupe La République En Marche perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Un neuvième groupe politique de 17 députés vient de se créer avec des macronistes et anciens macronistes. Un traitement pour Donald Trump. Le président américain affirme qu'il prend de l'hydroxychloroquine à titre préventif depuis 10 jours. Et puis, les oubliés du plan tourisme, c'est ce qu'ils disent, les autocaristes. Ils estiment que les mesures sanitaires exigées ne leur permettent pas de reprendre leur activité efficacement. RMC, 7h31. C'est fait, c'est officiel depuis 20 minutes et c'est un désaveu pour Emmanuel Macron. Le groupe La République En Marche vient de perdre symboliquement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En cause, la création d'un nouveau groupe politique avec des députés dissidents. Écologie, démocratie, solidarité. Paul Barcelone.
La majorité se fissure et désormais, La République En Marche n'a plus les coudées franches à l'Assemblée nationale.
Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle.
Bruno Bonnel, député marcheur du Rhône, un peu gêné aux entournures.
J'aurais plutôt été pour que la diversité des opinions des personnes de ce groupe soit exprimée. Moi, je préfère un En Marche turbulent et qui s'exprime à un En Marche fracturé dans un moment où il faut tout faire sauf jouer une carte personnelle.
Cette nouvelle donne va contraindre le parti d'Emmanuel Macron à négocier avec ses alliés comme le MoDem et ses 46 députés, leur chef de file Patrick Mignola.
Il y a des différences entre la REM et le MoDem et on l'a montré, par exemple sur la réforme de l'ISF ou sur celle de la CSG, qu'on soit numériquement décisif ou pas. Le MoDem sait faire entendre sa différence, mais on ne le fait pas avec une forme politicienne.
Alors même si le MoDem jure fidélité, la perte de la majorité absolue signe le début d'une recomposition de la majorité à 2 ans de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Il précise qu'il n'a pas le coronavirus, que tous ses tests se sont révélés négatifs. Donald Trump a annoncé hier soir qu'il prenait de l'hydroxychloroquine depuis 10 jours. Révélation surprise du président américain Nicolas Bach.
Une annonce choc, une de plus.
Oui, j'en prends depuis une semaine et demie et je suis toujours là.
Donald Trump a reconnu qu'il prenait un cachet d'hydroxychloroquine quotidiennement depuis une dizaine de jours à titre préventif avec l'accord du médecin de la Maison Blanche. Le président des États-Unis a pourtant toujours été testé négatif au coronavirus. Une nouvelle façon de vanter les mérites de ce médicament qu'il défend depuis plusieurs mois.
J'entends beaucoup de choses extraordinairement positives sur ce médicament. Ça ne va pas me faire de mal. C'est utilisé depuis 40 ans pour la malaria, le lupus. Qu'avons-nous à perdre ?
À ce jour, l'efficacité de l'hydroxychloroquine à titre préventif contre le coronavirus n'a pas encore été démontrée. François Chaste, professeur de pharmacie clinique aux hôpitaux Paris-Centre.
Jusqu'à présent, on ne dispose pas d'éléments qui permettent d'évaluer positivement l'utilité de ce médicament, y compris dans le traitement de la maladie.
Fin avril, l'Agence américaine des médicaments a mis en garde contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine en dehors d'un milieu hospitalier ou essais cliniques, alertant notamment sur le risque de troubles du rythme cardiaque.
Donald Trump qui pose aussi un ultimatum à l'OMS. Il menace de suspendre indéfiniment la contribution américaine si l'organisation ne s'améliore pas d'ici 30 jours. Le président des États-Unis considère entre autres que l'OMS est trop indulgente avec la Chine. 500 milliards d'euros pour aider les régions, les secteurs et les pays les plus touchés par la crise sanitaire. Après des semaines de tergiversation, la France et l'Allemagne proposent de créer un fonds de relance européen. Il faudra encore convaincre l'ensemble des États membres. Dans les transports, les effets du Covid se font de plus en plus sentir face à la chute des trajets en VTC. Par exemple, Uber a décidé de licencier un quart de ses salariés. Difficulté aussi pour les autocaristes qui estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité en raison de conditions sanitaires trop strictes. À Marseille, pour RMC, Lionel Dian.
L'entreprise de Paul Roca, qui emploie 75 chauffeurs, a déjà perdu 95% de son activité et elle ne pourra pas reprendre en appliquant les nouvelles normes sanitaires.
Dans les circonstances actuelles, savoir notamment la distanciation physique à bord des véhicules et l'utilisation d'un siège sur deux, ce n'est pas rentable ni pour nous, ni pour nos clients. L'entreprise est clairement en danger aujourd'hui. Au mois de juin, si rien n'est fait pour notre profession, nous mettrons la clé sous la porte. C'est 75 salariés qui perdront leur emploi.
Laurent Benvenuti, qui représente la Fédération nationale du transport de voyageurs, demande aujourd'hui des mesures d'urgence pour sauver la profession.
C'est les deux tiers des entreprises de tourisme par autocar qui risquent la faillite, qui risquent le dépôt de bilan dans les mois qui viennent. Et c'est pour ces raisons qu'on demande très fermement auprès du gouvernement, non seulement les annulations de charges qui ont déjà été annoncées vendredi soir dernier, mais également, de manière complémentaire, la prolongation du dispositif de l'activité partielle, la prolongation de 6 mois complémentaires des échéances bancaires, mais aussi un élargissement du fonds de solidarité.
Des autocaristes qui ont mené une opération escargot hier à Paris pour tenter de se faire entendre.
Et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, sera votre invité, Jean-Jacques, à 8h30 sur RMC et BFM TV. Toujours impossible de se rassembler dans les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées, mais ça pourrait changer. Le Conseil d'État donne 8 jours au gouvernement pour assouplir l'interdiction des cérémonies religieuses dans les lieux de culte. Comment réagissent les autorités religieuses, Rémi Inck?
Le Conseil d'État juge que cette interdiction porte une atteinte grave à la liberté de culte et présente un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique. La décision est saluée par les catholiques. La Conférence des évêques de France attend maintenant la révision du décret par le Premier ministre qui a 8 jours pour le faire, juste avant la Pentecôte qui sera célébrée le 31 mai. En revanche, les responsables juifs et musulmans attendent des précisions. Le président du Conseil français du culte musulman souligne que les cérémonies religieuses d'ampleur ne pourront pas se tenir, évoquant seulement de petites réunions. Même son de cloche pour le grand rabbin de France, qui estime que le moment viendra quand on aura des certitudes sanitaires et qu'il faut pour cela attendre encore un peu pour juger des effets du déconfinement. Enfin, la Fédération protestante de France souhaite que la décision reste dans les mains du politique, car il y a des enjeux sanitaires majeurs.
Le dernier bilan en France, les autorités ont enregistré 131 morts de plus en 24 heures, 28 239 décès au total. Le nombre de malades en réanimation poursuit sa baisse. 54 salariés d'un abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret ont le Covid. 20 cas de plus après les nouveaux tests effectués. L'abattoir Tradival emploie 400 salariés. L'opération de dépistage sur le site devrait se terminer aujourd'hui. Les courses, Mathieu, c'est à Saint-Cloud.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 5, Top Max, outsider numéro 7, Reliable Son, le 5 et le 7.
Il est 7h37. Merci Anne-Sophie. Mathieu reste avec nous, évidemment. Quentin Vinet, que se passe-t-il ailleurs dans le monde avant de recevoir le docteur Florian Ferreri, qui est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et spécialiste de l'anxiété et de la dépression. Les témoignages qui se succèdent sur RMC d'hommes ou de femmes qui ne veulent plus sortir de leur domicile. Mais Quentin Vinet, la Chine, elle, se reconfine partiellement.
Oui, la situation est de plus en plus inquiétante, de moins en moins rassurante, on va dire, là-bas, dans la province de Jilin, à la frontière nord-coréenne, dans le nord-est de la Chine. Les autorités viennent d'imposer un nouveau confinement pour 108 millions de Chinois, notamment dans la ville de Shulan, 700 000 habitants là-bas. Une trentaine de nouveaux cas ont encore été détectés là en début de semaine. Ça s'alourdit jour après jour. Les écoles sont fermées dans tous les quartiers qui sont isolés, où on détecte les cas. Un seul adulte peut sortir pour faire des courses tous les deux jours.
Et tout le monde peut se faire dépister au Danemark.
Tous les adultes asymptomatiques, donc ont la possibilité de prendre un rendez-vous pour savoir si oui ou non ils ont été touchés par le coronavirus. Le gouvernement danois l'a annoncé hier à ses 6 millions d'habitants, en expliquant que c'était une façon de surveiller encore un petit peu plus la progression du virus. Le taux d'infection est à un niveau très bas au Danemark, avec seulement une quarantaine de nouveaux cas entre dimanche et lundi. Et il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles poches d'infection, des poches cachées, c'est ce que dit le ministre de la Santé.
Quant aux habitants du Chili, eh bien, manifestation parce qu'ils ont faim.
Oui, c'est ça, de violentes manifestations contre la faim ont éclaté cette nuit dans la banlieue de Santiago. C'est la capitale confinée depuis vendredi dernier. Les manifestants protestent contre les pénuries alimentaires dans les magasins. L'activité économique tourne au ralenti depuis plusieurs semaines pour tenter de freiner l'épidémie dans ce pays qui a été secoué il y a quelques mois déjà pour une hausse du prix du ticket.
Merci Quentin. Docteur Florian Ferreri, donc bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, spécialiste de l'anxiété et de la dépression. J'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes nous disant « je ne peux pas sortir ». Le déconfinement, je suis resté confiné pendant 2 mois chez moi, je reste confiné, je ne peux plus quitter mon domicile. Ça vous surprend ou pas ?
Alors ça ne me surprend pas et ça peut s'expliquer en partie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des contraintes du confinement, des changements de rythme, qu'on nous imposait, mais c'était un cadre qui était imposé, on était dirigé, contraint par quelque chose extérieur. Là, on nous demande de reprendre un petit peu, de réévaluer nous-mêmes les avantages sur les inconvénients. On nous impose de nouveaux risques quand on doit, par exemple, retravailler, reprendre les transports. Et c'est tout à fait normal que certaines personnes aient des craintes importantes, presque une phobie de ressortir par la peur d'être contaminé du virus ou la peur que les autres personnes ne respectent pas les gestes barrières, par exemple.
Bien sûr, bien sûr. On appelle ça le syndrome de la cabane ou je ne sais pas. Enfin, il y a plusieurs. Hein, vous connaissez l'agoraphobie. C'est
exact. Alors ça, c'est un ensemble.
C'est autre chose. Oui.
Alors c'est un ensemble de manifestations qui sont du registre anxieux ou phobique. Syndrome de la cabane, c'est l'idée que on se sent hyper protégé chez soi et qu'on ne veut pas en ressortir. Ce sont des conduites d'évitement où on va considérer que le monde extérieur est particulièrement hostile et tout va être mis en œuvre pour trouver des justifications pour ne pas sortir, pour ne pas affronter le monde extérieur.
Bien, restez avec nous, docteur Florian Ferrer. On va faire un peu de pub. Nous allons expliquer comment on traite, parce qu'il faut traiter ces syndromes, cette anxiété. Nous allons avoir des témoignages aussi. Restez avec nous, vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Il est 7h41.
RMC, Baume en direct.
Je vous lis quelques-uns de ces témoignages que nous avons reçus. Kunda nous écrit « Je suis complètement déboussolé. Je m'endors à 7h le matin, je me lève à 14h. Prise de poids massive, je dors très mal, j'ai peur de sortir. Je désinfecte même mes colis et mon courrier. » Pascal nous dit « Peur de sortir de chez moi, surtout depuis que j'ai appris que je devrais reprendre le boulot à la fin du mois. » Ghislain, « C'est la première fois que je contacte une radio. Je tenais à remercier RMC de prendre en compte ceux qui sont angoissés. Je suis moi-même dans une période très délicate. » Collègue, Colette, comme beaucoup, on nous a dit de ne pas sortir, ça m'a paralysé. Je pense que j'ai ce fameux syndrome de la cabane. Samy, famille de 5 adultes, personne ne sort. Ce matin, je dois aller acheter de la viande. Le vrai flip, j'ai peur. Et puis tout à l'heure, on avait Sylvie, agoraphobe. David réagit en disant « L'agoraphobie est une maladie très difficile. J'ai mis plus de 20 ans à m'en sortir. Courage à Sylvie. Il y a une vie après cette maladie qui est peu connue et surtout mal comprise. » Vous pouvez continuer de témoigner, le docteur Ferreri avec nous, juste après ça sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct. Il est 7h44. Corinne est à Fécamp, en Seine-Maritime. Bonjour Corinne. Corinne. Allô? Corinne? Bien, Corinne était là, elle n'est plus là. Docteur Florian Ferreri, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, donc spécialiste de l'anxiété et de la dépression. Il ne faut pas que cette phobie, cette peur de sortir s'installe.
Alors il faut éviter parce que c'est très invalidant, c'est-à-dire et que oui. ce qui dans un premier temps est rassurant apaise l'organisme et le cerveau, c'est-à-dire de ne pas sortir, finalement devient excessif et on est complètement reclus à la maison et qu'on sait que quand on n'a plus d'interaction sociale, quand on ne fait plus les choses, on est très handicapé, on peut se déprimer.
Et bien sûr, mais si on commence à rejeter ses sorties, à avoir peur, si on repousse sa sortie de plus en plus, on s'installe vraiment, on s'enferme totalement.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'apaisement qu'on a pour une distance certaine, par exemple, on va dire je ne vais plus sortir à 300 mètres, devient, c'est pas suffisant, donc c'est 100 mètres, 50 mètres, et puis après c'est le seuil de sa porte. Donc c'est très compliqué, il faut identifier ça pour essayer de lutter contre cette tendance qu'on peut avoir, notamment quand on est anxieux, à éviter le danger.
Alors vous allez me dire comment on fait pour essayer de lutter, mais je voudrais un autre témoignage, celui de Patrick, qui est à Cuxac d'Aude, dans l'Aude. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous avez 64 ans, vous avez peur du déconfinement.
Oui.
Vous avez peur et vous ne sortez pas, Patrick?
Non.
Non, absolument pas.
La dernière fois que je suis sorti, il y a 15 jours, pour faire des courses, et j'ai vu beaucoup de gens sans masque.
Oui.
Et vous savez, pendant 2 mois, on nous a mis tous les jours du matin au soir le nombre de morts.
Oui.
Et on ne va pas dire qu'on avait oublié la mort. On sait qu'un jour ça va arriver.
Oui.
Mais là, du matin au soir, on nous met ça. On voit des gens qui sont imprudents. Moi, j'ai peur. Je ne sors plus.
Plus du tout. Comment faites-vous pour les courses et vous n'avez plus aucun contact extérieur, Patrick?
Non, je n'ai plus de contact. Je ne cherche pas à avoir de contact. J'ai trop peur.
Oui. Comment faites-vous pour les courses?
Pour l'instant, j'ai des réserves.
Oui.
Et après, je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non.
Docteur Florian Ferret, vous entendez, Patrick?
Oui, j'entends, c'est une grande souffrance. Moi, je comprends, on comprend la logique, en tout cas. C'est, oui. Il y a un danger, on évite de se confronter. Et surtout, quand il y a un danger auquel on se sent impuissant, vulnérable. Mmh. Quand on se sent impuissant à quelque chose, on est hyper vigilant à tous les signaux, aux informations, au nombre de morts, on va dire au catastrophisme qu'il peut y avoir. Et on ne voit plus, on a du mal à peser le risque par rapport à la réalité.
Alors, que faire contre ça?
Alors, déjà, ce qui est bien, c'est de reconnaître que c'est peut-être un peu excessif et qu'on peut, on peut sortir avec des précautions, même si les autres ne les prennent pas, si on les prend soi-même, mais sans grand danger.
Patrick, il ne pense pas ça, hein, Patrick?
Non, moi, je ne pense pas ça du tout. Le problème, c'est pas que, à la télé, on entend. Voilà, maintenant, c'est les laboratoires, enfin, les trucs de viande. Il y a des cas un peu partout.
Oui. Moi, les abattoirs,
Je suis vulnérable.
Le moins vous êtes vulnérable, vous avez 64 ans, Patrick, et Patrick, donc il a problème cardiaque, que faire? Mais que faire? Alors,
c'est vrai qu'il fait partie des personnes à risque et qu'il faut être particulièrement prudent. Mais particulièrement prudent, il n'y a aucun médecin qui a dit qu'il ne faut plus bouger du tout et ne rien faire. Parce que par exemple, quand on a une pathologie cardiaque, c'est bien d'avoir un peu d'exercice physique, de sortir. Donc c'est réussir à mettre en lien le danger qui est réel et le danger pour soi de rester à la maison. Un, c'est de reconnaître et de pas dire on a raison de faire ça. C'est pas forcément vrai, même si on pense que c'est bien. Et d'essayer de mentaliser un trajet, de travailler aussi sur sa respiration pour pas faire une attaque de panique à l'extérieur. Et s'il y a vraiment une grosse difficulté, ne pas hésiter à en parler à son médecin, voire
avoir un consulté Patrick.
Non, mais le problème. Alors moi, je vous ai expliqué il y a deux jours. J'ai dit, tiens, je vais aller faire deux, trois courses dans le village. Et cinq minutes avant de sortir, j'ai la respiration qui a commencé à paniquer. Donc j'ai dit, il faut que je me calme. Et voilà, je sais que dès que je vais sortir, c'est la trouille, j'ai la trouille.
La trouille.
Le fait, en plus de tous les jours, du matin au soir, sur toutes les chaînes d'information, on nous affiche le nombre de morts,
n'écoutez plus, ne regardez plus, Patrick.
Mais ça serait bien que aussi les informations arrêtent de le dire, ça aussi.
Oui. Alors, docteur Ferrer.
Mais c'est très vrai, c'est-à-dire que quand on est anxieux et hyper vigilant, on est hyper sensible à l'information, et comme les informations se répètent, elles sont hyper mémorisées, avec une mémoire émotionnelle qui est négative. Donc l'idée de couper, c'est un peu ça, c'est-à-dire de ne pas arrêter toute source d'information, mais de choisir ses émissions et de choisir des créneaux et un temps dans la journée dans lequel on va s'informer. Et l'autre aspect, c'est comment, puisque j'ai été anxieux à l'idée de sortir la prochaine fois, comment je vais réguler un petit peu cette anxiété en travaillant sur la respiration.
On a cette volonté de ne pas regarder l'information, mais on est en même temps attiré par cette information catastrophiste.
Exactement, parce que quand la situation est stressante, on a besoin d'avoir des solutions. Et quand on cherche des solutions, on veut beaucoup d'informations. En fait, on s'aperçoit dans l'information qu'il en faut, mais quand il y en a trop, elle nous rend perplexes parce qu'il n'y a pas forcément des solutions. L'information n'est pas forcément solution.
Donc on peut gagner contre cette anxiété pas à pas, comme vous dites, on construit un parcours.
On construit un parcours, on le mentalise à l'avance, on sait ce qu'on va faire.
Oui.
On sait qu'on peut être un peu inquiet à telle distance, on va s'arrêter, respirer, choisir des horaires pour lesquels il y a moins de monde au début. Mais c'est quand même important, dans la mesure du possible, de se réexposer progressivement au danger. Pas aller se mettre dans le rouge tout de suite, mais progressivement, pas à pas, de reprendre quelques activités.
Bien. Merci Patrick. Corinne, très vite. Bonjour Corinne, je vous ai trouvé finalement. Vous êtes à Fécamp. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Alors, vous sortez encore, mais c'est votre voisine qui ne sort plus depuis le 11 mars.
Voilà, tout à fait. Elle a peur. Et bon, pendant le confinement, elle sortait pour les courses.
Oui.
On y allait ensemble, mais depuis, elle est tétanisée, en fait.
Elle est tétanisée. Ouais. Et vous,
Corinne? Ah, moi, pas du tout.
Pas du tout.
Non,
mais vous essayez d'en parler avec elle, vous?
Oui, je lui ai dit, je l'ai vue hier, et je lui ai dit, écoute, dans la semaine, on ira se balader ensemble. Oui. Alors, elle me dit que l'un de ses fils lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle sorte, et que l'autre lui dit qu'il faut qu'elle fasse attention, parce qu'elle a un petit souci de santé, donc elle est à risque. Mais moi aussi, je suis à risque. Parce que je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, et je suis asthmatique. Mais pendant les deux mois, je suis sortie parce que je n'avais plus de kiné, forcément.
Bien sûr.
Donc, il fallait que j'entretienne les muscles de mes jambes. Donc, je me suis baladée. Voilà. Et par contre, depuis le confinement, je porte un masque. Dès qu'il y a du monde. Mais je n'ai jamais été tétanisée, par contre.
Ben, merci beaucoup, Corinne.
J'en
merci,
prie,
merci,
une bonne
Corinne.
Journée.
Passez une bonne journée. Vous voyez des patients jeunes, hein.
On voit des patients jeunes parce que c'est fait.
Oui.
Alors, soit il y a des personnes qui avaient déjà une vulnérabilité anxieuse et qui ont beaucoup de mal avec cette situation nouvelle. Ça, on les connaît, on les appelle, ouais. Ils nous disent authentiquement que c'est difficile et on sait comment les aider. Mais on peut aussi avoir des personnes qui n'avaient pas de difficultés particulières et qui ont été confrontées à un stress énorme, qui sont jeunes et qui ont du mal à reprendre leurs activités quotidiennes.
Autre chose, d'autres personnes qui se lavent tout le temps, par exemple. Hein ?
Exactement. C'est...
Par peur d'être touchées par le virus, contaminées par le virus dans l'air, alors que ça n'existe pas, mais qui se lavent tout le temps.
Exactement, ce sont des rituels de réassurance. C'est-à-dire que la personne qui inquiète à l'idée de sortir, elle ne va pas sortir. La personne qui est inquiète par la contamination, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se laver les mains et ça va la rassurer. Alors, on a dit les messages qu'il faut se laver les mains régulièrement, mais il ne faut pas que ça soit excessif non plus, sinon on ne fait que ça et on ne peut plus faire les autres choses.
Et puis certains aussi qui font des fixations sur des symptômes physiques. Le mal au ventre, la toux.
Exactement.
Tout de suite, c'est le coronavirus.
Ça envahit complètement la pensée des personnes qui ne pensent qu'à ça et à la moindre manifestation corporelle, c'est tout de suite le scénario catastrophe qui apparaît avec la maladie grave. Alors qu'en temps normal, on se dit bon, c'est pas grand chose, je vais pas consulter mon médecin pour ça, ça va passer. Et là, les personnes les plus anxieuses vont se dire tout de suite. C'est quelque chose de dramatique, je vais avoir du mal à respirer dans les heures qui suivent.
Bien, merci beaucoup. Hein. Merci, et il va falloir aussi que nous traitions peut-être l'information légèrement différemment. Merci beaucoup, docteur, merci. Il est 7h53, c'est l'heure de partir pour les abattoirs pour avoir des explications positives avec Nicolas Poincaré. Nicolas, que se passe-t-il ? On a du mal à expliquer le phénomène, il y a beaucoup de contamination dans les abattoirs, mais on le sait... Le virus ne se propage pas si l'on mange de la viande, hein, que les choses soient très claires, d'autant plus que la viande, elle est souvent cuite. Donc alors, là, le virus...
Alors, on en est là, mais le constat d'abord, si vous voulez bien. On rappelle qu'une première contamination a été repérée en Australie en avril, puis aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et en France, donc un peu partout. En France, on a eu un abattoir touché en Vendée, et puis ces derniers jours, deux autres, hein, à Fleuret-les-Aubrais dans le Loiret, 34 salariés contaminés dans un premier temps, puis après qu'on en ait testé 54, on vient encore d'en retrouver 20 autres, ça fait donc 54 salariés. En Bretagne, dans les Côtes d'Armor, on a trouvé 6 cas positifs à l'abattoir de Kermeret, et après des tests, on est arrivé à 69 personnes positives. L'usine, bien sûr, a été fermée et tous les cas contacts sont testés.
Bien. Aux États-Unis, le phénomène est là plus frappant.
Oui, plusieurs dizaines d'abattoirs fermés, 25 000 salariés au chômage technique, 5 000 employés de ces abattoirs sont contaminés. Il y a déjà 13 morts, dont 4 qui sont des contrôleurs qui venaient enquêter sur les causes des contaminations et qui ont été touchés à leur tour. C'est toute la filière de la viande qui est impactée aux États-Unis, moins 25% de capacité d'abattage pour la viande porcine, moins 10% pour la viande bovine. Dans le seul état de l'Iowa, 700 000 porcs par semaine sont abattus directement dans les fermes parce qu'il n'y a plus d'abattoir.
En ce moment,
En ce moment même, 700 000 par semaine, je vous épargne les détails. Si ça continue, il y aura sans doute des pénuries de viande aux États-Unis.
Alors, comment explique-t-on ces contaminations ? D'abord, première question, est-ce que cela peut venir des animaux ?
Alors, non, on nous dit que non à ce stade, mais il y a pourtant un précédent lors de l'épidémie du MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, c'était en 2012. Une étude avait montré que les abattoirs de Doha, au Qatar, avaient été un haut lieu de contamination. C'est bien les animaux qui étaient abattus, en l'occurrence c'était des dromadaires, c'est bien les animaux qui avaient été des vecteurs de contamination vers l'homme. Mais ce n'est pas le cas du Covid-19. En tout cas, aucune chaîne de transmission à partir de la viande ou à partir de la consommation de la viande n'a été repérée jusqu'à présent nulle part dans le monde. En France, l'ANSES, l'Agence française de sécurité alimentaire, souligne aussi qu'il n'y a aucune preuve scientifique de contamination en mangeant ou en manipulant de la viande. Mais l'ANSES ajoute tout de même que ce risque ne peut pas être totalement exclu à ce stade. Donc on est à peu près certain qu'il n'y ait pas danger, mais d'après l'ANSES, on n'est pas totalement certain.
Alors, si ce n'est pas la manipulation de la viande, c'est quoi ? Quelles peuvent être les autres causes ?
On parle de la promiscuité, la difficulté de respecter les distances. C'est un travail physique dans les abattoirs, pénible. On porte des lourdes charges, on transpire, on s'essouffle. On peut avoir du mal à garder son masque et à respirer avec. C'est l'explication qui est la plus souvent avancée par les représentants de la filière. Mais elle ne convainc pas tout le monde. L'épidémiologiste Antoine Flao a fait remarquer qu'il y a beaucoup d'autres secteurs où on travaille à la chaîne dans des conditions de promiscuité et de pénibilité. L'automobile, le bâtiment, par exemple. exemple, et on n'a pas vu ces cas dans les autres secteurs.
Alors, quelle est l'hypothèse la plus sérieuse?
Alors, en plus de la promiscuité, peut-être l'addition de trois autres facteurs. Le froid, l'humidité et une très forte ventilation. C'est ce qui caractérise les salles de découpe et de conservation de la viande. Des températures qui sont proches de zéro, une très forte humidité et une très grosse ventilation. Cela confirmerait que le virus peut se transmettre alors par des gouttelettes qui circulent dans l'air, des gouttelettes dites aérosols, pas seulement par les postillons d'une personne qui se trouve à moins d'un mètre de vous. Cet air contaminé serait donc, dans les chambres froides, particulièrement redoutable.
Merci Nicolas Poincaré. Il est 7h57. Qu'allons-nous faire?
À suivre, le dépistage en France. Oui. Où en est-on? Quelle fiabilité des tests sérologiques? Une liste des tests validés par le ministère de la Santé va bientôt être publiée. Le professeur Dominique Le Guludec, président de la Haute Autorité de Santé, est avec nous juste après le journal de 8h sur RMC.
RMC.